Alors, c'est peut-être une photo, une image que vous verrez demain, des manifs d'aujourd'hui, des grèves d'aujourd'hui, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien non, c'était il y a quand même quelques décennies. C'était mai 68 à Bordeaux. Alors, vous voyez, rien n'a changé.
Daniel, est-ce que vous permettez juste que je vous présente rapidement?
Ah bon, c'est parce qu'on me dit qu'il faut quand même aller vite et qu'on a pris du retard et qu'il n'y aura pas de pause, etc.
Non, mais je ne vais pas faire long, mais sinon, je peux le faire après, si vous préférez.
Mais non, faites tout ce que vous devez, puis moi, je raccourcirai.
Je sais bien que, comme Boris, Didier Houzel, etc., vous êtes très connus de notre public, mais malgré tout, il y a peut-être des personnes plus jeunes qui vous découvrent, et donc j'aimerais quand même insister sur le fait que vous avez créé un concept très important, celui de bien-traitance avec un trait d'union, et que vous avez aussi, avec Simone Veil, participé à l'humanisation des pratiques, notamment en pédiatrie et aussi à l'opération pouponnière. Enfin, vous êtes la coordinatrice de Bientraitance, Formation et Recherche, et vous êtes l'auteur d'un livre qu'on pourrait qualifier de classique, La Bientraitance envers l'enfant, des racines et des ailes, un livre qui a marqué plusieurs générations et qui sera bientôt réédité, mais vous continuez aussi à écrire et à publier des livres. Vous êtes membre du CA d'Air de Famille, et en 1965, vous avez succédé à Myriam David dans les foyers Perrin, ancêtre des centres parentaux, donc on peut dire que vous en avez posé les fondations.
Bon. Oui, alors donc voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que non, je ne vais pas essayer de sucrer les fraises. Et ce dont je vais vous parler, effectivement, mai 68, il y en a qui n'étaient pas nés hein, et qui sont là, deuxième, troisième génération. Mais il n'empêche que bien traitant, c'est ce trait d'union, prend ses racines ou sa sève dans ce qu'on a pu appeler une révolution culturelle. Ce n'était pas une autre révolution, malgré après tous les accords de Grenelle qu'il y a pu y avoir et tout, parce que, en fin de compte, quand De Gaulle s'est demandé « mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une révolution ?» On avait répondu à Louis XVI « oui, sire, c'est une révolution. » Mais non, en fin de compte, ils ne sont pas rentrés à l'Assemblée, ils ne sont pas rentrés au Sénat, ils sont rentrés à la Sorbonne. Ils sont rentrés à l'Odéon. Donc, c'était les étudiants. Donc, en fin de compte, c'était une révolution culturelle. Elle continue. Il y a une culture qui continue à se faire ici, aujourd'hui, et c'est de ce qu'elle nous laisse de vivant dans ses racines et de ce qu'elle va épanouir, ainsi que l'a dit Boris Cyrulnik tout à l'heure, il y a une transition. Nous ne sommes plus dans les périodes précédentes, le vocabulaire a changé, et c'est cette transition que je vais faire défiler sous vos yeux, mais pour le temps qui m'est imparti, je ne pourrais pas commenter chaque diapositive. Alors, je vous signale que grâce à Christiane Laurent, auquel je rends hommage, je ne sais pas si elle est dans la salle, elle est une des chevilles ouvrières de famille et de bientraitance, et donc une documentaliste extraordinaire. Il suffira que vous vous adressiez à notre association et vous aurez tout ça tout à fait complet grâce à cette documentaliste. Donc, je continue. J'appuie pas sur ce qu'il faut, probablement. Oui, ici, merci. Voilà. Alors, il s'agit de centrer nos propos, donc, effectivement, sur le père, sur les centres parentaux. Et là, je voudrais dire que les premiers papas que j'ai vus, et c'est pour ça que j'ai choisi mai 68, c'était les pères de mai 68. Je rends hommage beaucoup à Oscar parce que j'avais les yeux complètement... Enfin, il y avait les gaz lacrymogènes, tout ça et tout. La consultation, il y avait la grève générale, donc les rendez-vous n'étaient pas honorés. Et ma surveillante m'arrête en me disant « Rapoport, Rapoport, monte vite au troisième, il y a un petit Oscar à voir, tu verras, parce que ça y est, et on découvrait une nouvelle maladie, un nouveau traitement, et il fallait faire le test avant le traitement. » parce que c'était des enfants souvent déjà un petit peu en retard, etc., etc. Ça s'appelait l'oligophrénie phénylpyruvique et tout le monde la connaît. C'est la phénylcétonurie, c'est le test de Guthrie au talon, et oui, c'est éradiqué maintenant. Donc merci Oscar, mais je dis bêtement à ma surveillante, oui, mais c'est quel numéro, c'est où elle me dit, tu peux pas le louper, c'est complètement son père. Et elle me regarde, elle fait, hey, t'as réussi. En fait, mai 68, ça a duré un mois. Et 15 jours après, il est interdit d'interdire. Les affiches des visites avaient été arrachées. Les pères rentraient parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas aller au travail. Il n'y avait plus d'horaire de visite. Et l'humanisation de la pédiatrie a en fait commencé là, sauf qu'elle a été institutionnalisée et généralisée des années plus tard. Mais nous, on est resté dans ce petit service absolument extraordinaire du professeur Brissot, complètement ce qu'on a appelé mai 68 art. C'est un vilain mot. Donc, les papas étaient là. Et je vais donc voir Oscar. Et je me rends compte qu'effectivement, c'est Riquet à la houppe. Il avait la même petite houppe que son papa. Et elle m'avait dit, tu ne peux pas le louper. C'est le portrait craché de son père. Alors là, bon, 40 ans après, les berceuses, vous les trouvez sur Internet. Eric Telitocci vraiment a fait des berceuses pour les papas extraordinaires. Et il y en a qui sont très, très drôles. Alors, il ne faut pas se priver. Oui, les papas bercent. Bien sûr, j'enchaîne sur la conclusion de Boris et de Françoise Dolto. Mais ça n'est pas du tout connu d'elle. Peut-être de sa fille. Mais bon, tu es Catouche à part. Hein, bon, ça, je ne m'occupe pas de la filiation aujourd'hui. Mais en tout cas, elle était à la Sorbonne dans ce qu'on a appelé la première crèche sauvage. Et les crèches sauvages, c'est devenu la transformation des crèches. Très en danger, tout le temps en danger. Il y a une actualité inouïe actuellement. Peut-être tu en parleras. On n'aura pas le temps. Alors, je prends le temps. Une petite fille est décédée il y a un an dans une crèche privée. Un autre enfant délaissé, on ne savait pas où il était, était dans une autre salle que celle où il aurait dû être, dans une autre crèche privée. Je rajoute crèche privée. Et je ne dis pas que c'est des crèches municipales ou PMI, etc., parce que ce n'est pas anodin. Mais effectivement, en mai 68, un petit bébé est mort dans une crèche et il y a eu un livre absolument extraordinaire, « Entre la crèche et la famille, la mort de l'enfant ». Alors, donc... Comment ? Oui, mais tu en parleras. Non, ah, peut-être pas, elle n'aura pas le temps. Bon, alors Jacques Assoun, mais alors tout ça, vous l'aurez si vous vous adressez à Bientraitance. Parce que là, alors, si tu me fais ce coup-là, bon, je continue très vite. Mais quand même, car ce n'est pas connu d'elle, 10 ans après, Françoise Dolto, que j'ai connue pour la première fois là, assise avec tout le monde, parce qu'elle avait son cabinet rue Cujas. J'habitais à l'angle de la rue Cujas. J'allais après à son séminaire sur le dessin. On se retrouve donc en mai 68 à cet endroit-là. Et je dois dire qu'après, elle m'a toujours accompagnée, aidée, sans que personne ne le sache d'ailleurs. C'est ça qui était absolument formidable avec elle, parce qu'elle est devenue quand même très, très, très connue. Par contre, notre lien ne l'était pas du tout, je ne fais pas partie des sérails. Et voilà ce qu'elle va dire. Ce lieu de vie des enfants de tous âges, elle parlait de cette crèche sauvage, de ce mois fou, a été un paradis pour beaucoup et pour certains, la meilleure psychothérapie d'enfants que j'ai jamais vue. C'était vraiment un lieu de vie et de développement. Les crèches deviennent des lieux de vie. Les puéricultrices vont s'emparer de ce mot-là et il va y avoir un changement complet de la pensée, des constructions, des partage de responsabilité, le mot institutionnel va être lâché. Institutionnel, c'est mai 68. 10 ans encore après, à l'occasion d'une rencontre tout à fait formidable entre Émy Picler, Le Maternage Insolite, Geneviève Appel, Bernard Tiss, on organise une rencontre entre Le Maternage Insolite, Jeannine Lévy, L'éveil du tout-petit, qui porte l'opération pouponnière où est né le mot bientraitance. Et on organise donc cette rencontre avec Émy Picler. Ce n'est pas du tout connu. Et Françoise Dolto. Pour moi, c'était un moment inouï, vraiment inouï, de rassembler Jeannine Lévy, Émy Picler et Françoise Dolto. C'était fantastique. Ça a été d'ailleurs un moment fantastique. Donc, elle a regardé tous les films d'Émy Picler. Elles se sont très bien entendues. Et puis après, Françoise se lève et s'en va. Et elle me fait signe, vous me raccompagnez, Daniel. Je la raccompagnais effectivement toujours à sa voiture, bien qu'elle avait un ange gardien qui s'occupait très bien d'elle. Mais elle avait envie que je la raccompagne. Donc je laisse Jeannine avec Émy Picler. C'était pas grave, deux mères juives, elles ont toujours des choses à se raconter, comme disait l'autre. Mais je voulais que Françoise Dolto donc, s'intègre à l'opération pouponnière, s'intègre à tout ce qui était fait là. Et là, elle ne m'en parle pas, elle me parle d'autre chose. Elle arrive à sa voiture et je lui dis, mais enfin, Françoise, là, elle me dit, ah, c'est très, très intéressant, mais moi, je ne m'occupe pas de ça. Hein. Et là, je voulais marquer 1940. Mais enfin, Daniel, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de père. Et voilà. Et ça, c'est pas du tout connu. Mais elle va me lancer là-dessus. Elle me dit, donc, ça m'intéresse pas. Vous faites pas appel à moi. Mais vous, continuez, hein, continuez. Et des hommes, Daniel, des hommes. Et elle part comme ça, en voiture. Alors oui, merci d'avoir parlé du père. Il faut parler peut-être des hommes. Je sais pas ce que vous allez faire de ça, mais on va continuer. Alors, peut-être quand même, voilà. En fait, à ce moment-là, on commençait à transformer déjà les crèches un peu avant mai 68, 5 crèches, avec l'éveil du tout-petit. On commence à filmer, ça se répand avec mai 68 et grâce aux puricultrices, merci aux puricultrices, dans toutes les crèches et un peu partout en France. Et à l'époque, voyager, c'était pas facile. Enfin, je veux dire, voyager, c'était très long. C'était souvent des trains de nuit et tout. Puis on montrait les films, on montrait tout ça. On faisait l'éveil du tout petit. Et en fait, c'était la création des CAMS. Jeannine et moi-même, on a créé le centre d'assistance éducative du tout petit, qui s'est appelé CAMS 6 ans ou 7 ans après. Et grâce à l'éveil du tout petit, on a pu, ça je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, c'est ce qu'on a filmé en pouponnière, l'horreur, absolument l'horreur, à Paris, dans ce qu'on appelait le dépôt de l'aide sociale à l'enfance. Le mot dépôt a été interdit. Attention, c'est pas le passé. Ces enfants, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans maintenant, et je peux vous dire qu'il y en a que j'ai pu suivre, père et mère. Et on voit, pas forcément du tout ce que j'attendais, le rejet, la maltraitance, tout ça, etc. L'hyperprotection, l'angoisse. Je ne veux pas vivre ce que j'ai vécu. Et ça, c'est pas suffisamment. On ne parle que de ce qui ne va pas. Et là, évidemment, c'est autre chose. Alors, à ce moment-là, comme je commençais l'humanisation de la pédiatrie, il n'y avait pas que les pères qui rentraient, les grands-mères rentraient, dans ces deux services où je travaillais, absolument formidable. Je parle donc de ce qui se passe à Saint-Vincent-de-Paul, de ce qu'on a filmé avec Simone Veil, elle me dit, je veux voir ça. Montrez-moi ça, montrez-moi ça, et puis faites-moi rencontrer Jeanine Lévy. C'est ce qu'on va faire. On va lui montrer donc ce film que vous trouvez sur Internet à Canal U, Canal Universitaire. Enfant en pouponnière demande assistance. Là, c'est l'horreur. Elle voit qu'on n'appelle pas les enfants par leur prénom, mais par des numéros. Elle a un numéro. Elle sait ce qu'est un numéro. Et ses ongles s'enfoncent dans mon bras, je m'en souviendrai toujours, parce qu'on connaissait ses colères, elle avait des colères très dures, on la craignait beaucoup. Je n'ai pas du tout une relation avec tous ces gens dont je vous parle, enfin intime, et donc je me faisais quand même toute petite. Mais ça a été, en se faisant toute petite, vraiment extraordinaire, parce qu'elle a tout de suite décidé de fermer les pouponnières, toutes les pouponnières, et son adjoint a dit « Non, madame, il faut faire un raid, il faut faire, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, opération pouponnière. » Alors j'ai vu Jean-Pierre Elkabbach, et je lui ai dit « Tu me fais opération pouponnière à la télé. » Il me dit « Si tu m'as Simone Veil, oui, sinon, non. » Comme moi, je ne voulais pas paraître, ben Simone Veil, elle est venue et elle a lancé l'opération pouponnière. Donc, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui autour du mot bientraitance. Vous voyez là, donc, Marie-Jeanne Richen. Vous voyez tout un texte que vous pourrez revoir. Voilà. Et bien sûr, dans les piliers que nous avons eus, à ce moment-là, il y a eu parents en souffrance, et pas seulement enfants en souffrance. Il n'a pas pu, René Clément, car il est décédé très très jeune, écrire « Professionnel en souffrance ». Ça sera écrit plus tard par d'autres spécialistes, sans qu'il y ait vraiment un lien direct avec ses deux premiers livres. Et puis, voilà, donc, il va... nous apprendre qui est Lévinas, il va nous apprendre beaucoup de choses, il va beaucoup, beaucoup nous faire connaître Winnicott, et tout ça a repris 20 ans plus tard par Spirale, par Patrick Bensoussan, par Joël Clerget, et voilà. Mais entre-temps, d'autres révolutions apparaissent. Eh bien oui, ben, on peut allaiter maintenant dans un commissariat. Elle a filmé, elle était dans un jardin, dans un... Bon, quand même, ça étonne. Ça continue à étonner beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais elle, vraiment, Claudie Dier-Jean-Jouveau, elle est sur son site, qui est formidable. Elle a beaucoup participé au trait d'union de bientraitance, sur le cododo, sur l'allaitement, toujours autour du couple parental, précoce, très très précoce, et je pense que les centres parentaux peuvent faire beaucoup appel à elle. Alors il va y avoir énormément de choses, bien sûr le bébé est une personne, Bernard Martineau, il va y avoir tellement, tellement à ce moment-là une foison de changement, enfin, dans même ce mot d'institutionnel, mais il va y avoir le thanatophore et les travaux de KS, les thanatophores des institutions, les thanatophores des c'est-à-dire les porteurs de mort institutionnelle. Et tout ça est perdu actuellement. Mais il y a 2 ans, à Rennes, justement, et Didier Houzel peut-être a été au courant, donc il y a eu un hommage à René Caës et aux travaux de Caës et l'institutionnel, etc. Tout ce que nous devons effectivement à tout ce que vous voyez là. Et puis arrive Anne Rouberg, et Anne Rouberg, La croissance empêchée. Tu nous as préfacé d'ailleurs, Boris, à ce moment-là, et oui, et avec beaucoup de courage, parce que il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient se lancer. Voilà, mais enfin bon, ça tout le monde le sait, Boris est tellement en avance par moment. Mais pour nous, c'était notre quotidien, ces enfants qui ne grandissaient pas. Et en fait, c'était le nanisme psychosocial. Il y a un quart d'heure de formation, enfin pour les pédiatres sur le nanisme psychosocial, On en a fait un livre, on a créé donc une spécialité autour de la structure de protection de l'enfance. Et dans cette préface, alors que vraiment nous montrons combien on peut travailler avec ses parents dits maltraitants, anciens maltraités eux-mêmes, etc., etc., et tout ce qui a été dit avant moi, eh bien, il dit dans la préface, mais non, tout ça, il est très bien ce livre, mais vous savez bien que lorsqu'un problème est compliqué, il suffit de le poser clairement pour le rendre encore plus compliqué. Alors donc, je continue sur la complexité du trait d'union de bien-traitance. C'est que la complexité nous a rattrapés. Le burn-out. Alors, ce burn-out, il est permanent, il revient tout le temps et il vient souvent du nombre excessif des enfants, la place des parents et du fait qu'on a demandé à ces professionnels d'être des substituts maternels. On a oublié que la première Myriam David a dénoncé en 63 qu'il n'était pas possible de demander à ces professionnels d'être des substituts maternels, donc elle allait à l'encontre enfin de Spitz, enfin de l'utilisation qu'on faisait des travaux de Spitz, et elle a dit quand même cette phrase formidable, enfin, ils ne peuvent pas être des substituts maternels, il faut trouver d'autres méthodes éducatives qui permettent à ces professionnels de s'occuper d'enfants qui ne sont pas les leurs. Et là, va y avoir cette phrase formidable. Et Didier Houzel citait Bion, et justement, les capacités de rêverie. Ces professionnels ne peuvent pas avoir de capacité de rêverie et être dans l'anticipation de Winnicott dans les conditions où elles sont de formation ou pour travailler. Et tout ça doit actuellement faire partie donc de nos formations. Rapidement, maintenant, pour conclure, je voudrais dire, car c'est ce qui nous amène aujourd'hui à nous réunir, que le père, il est apparu en fin de compte avec La naissance sans violence et tous les travaux de Bernardis, le père acte de naissance. 20 ans avant, enfin 10 ans avant, je rencontre Frédéric Le Boyer qui vient me voir parce qu'il avait entendu parler que je faisais des tests à Saint-Vincent-de-Paul, et bien sûr pour la phénylcétonurie, etc. et tout. Donc des QI, des quotients de développement. Et il est venu me voir avec Marie-Claire Busnel. Pour donc que je fasse les quotients de développement des enfants nés sans violence. Je me suis rendu compte que c'était d'une telle complexité que j'ai décidé que ce ne serait pas une recherche, mais une première enquête. Elle est restée unique et il n'y a pas eu de recherche après. Mais il y a eu le grain, les cahiers du nouveau-né, 7 cahiers, 20 ans, grâce à Laurence Pernoud, grâce aux éditions Stock, grâce à Berry Brazelton, qui nous a donné les compétences des bébés, etc. J'ai beaucoup, bien sûr, travaillé avec lui. Je l'ai édité, Naissance d'une famille, c'était dans ma propre collection. Et on va voir que ces photos, c'est des photos de l'intra-utérin. Et que oui, le bébé va jouer avec son cordon ombilical et qu'enfin, aujourd'hui, je peux vous dire pourquoi la girafe n'est pas un miracle économique. Ça rapporte des milliards, la vente de la girafe. C'est le cordon ombilical. Le cou de la girafe, puis le doigt du papa, puis le cordon ombilical, vous avez le trait d'union de bien-traitance. Mais que de trait d'union ! Alors oui, disons-le en conclusion, j'ai le temps de la conclusion, 3 minutes ?
Une minute.
Oui, 2 minutes, voilà, c'est ce qu'il me faut. Alors voilà, la conclusion donc, elle est là, elle est dans l'incendie de Notre-Dame, où vous voyez les mains de Le Boyer, c'est les mains des pompiers qui vont sauver cette statue de Notre-Dame, et en fin de compte, oui, les pompiers, eh bien, ils ont été des bébés. il y a eu des mains qui ont pu les aider. Et oui, peuvent continuer à les aider. Et je suis très, très, très touchée par cette photo parce qu'elle me vient d'Argentine et de bientraitance en Argentine. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de bientraitance ? Eh bien, bientraitance, c'est ça. C'est une idée qui fonctionne aujourd'hui comme une valeur ajoutée, destinée à devenir une valeur intégrée, partie intégrante de la professionnalisation des soins. Bientraitance est apparue parce qu'on ne pouvait plus supporter au ministère de la Santé « Allô, le bureau maltraitance », c'était le bureau enfance-famille, et que je ne supportais plus à Trousseau, à la consultation, que ce monsieur qui était aveugle d'ailleurs, mais dont je reconnaissais toujours la voix, me disait « Rapoport, Rapoport, là, t'es à la consultation maltraitance, il y a la PMI qui veut te prendre en urgence, alors tu décroches, hein, tu décroches. » Consultation maltraitance, j'ai dit « Il y en a assez, il y en a marre » et j'ai eu mon burn-out. Et on a dit « Il faut dire ça autrement, il faut qu'on s'appelle autrement, il faut que l'opération pouponnière s'appelle autrement. » Et Geneviève appelle, a fait comme ça. Voilà. Et tout à coup, Marie-Jeanne Reichen se lève. Et là, vous avez le aller au musée d'Antibes, Picasso, la naissance de Vénus, la libération aussi, parce que c'est un tableau de 1945, je crois, ou 47. La naissance de Vénus, bien traitance. Alors je refais ça à la place de Geneviève Appel et je dis avec un trait d'union, pas bien traitance. Tout le monde me regarde et Geneviève fait oui, 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 pourquoi ? Elle avait tout compris, vous pensez. Pour que ça ne devienne pas un slogan, pour que ça ne devienne pas dans n'importe quoi, n'importe quelle affiche, n'importe quel journaliste, bien traitance, on le sait. Le trait d'union, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et puis qui est déjà dans accueillir le tout premier, je peux dire colloque, où j'ai fait inviter donc notre amie que vous voyez ici. On nous l'a réédité en hommage à Myriam David, faut dire, hein, modestement. Donc accueillir, vous le trouvez partout. Merci.
Et merci beaucoup. Et je vais faire justement le trait d'union avec Sylviane Giampino. Donc Sylviane, vous êtes à la fois psychanalyste en libéral et psychologue de l'enfant, notamment dans une crèche inclusive, parce que vous avez eu à cœur de garder un pied dans la réalité de terrain, malgré vos responsabilités politiques, et vous arrivez à conjuguer le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge avec votre travail clinique. Donc vous avez soutenu, ça c'est Frédéric qui me l'a dit, la création du premier centre parental auprès de Bertrand Delanoë, qui était à l'époque maire de Paris. Et vous avez promu l'importance de la place du père bien avant les 1000 jours. Et vous êtes l'auteur de « Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» chez Albin Michel. Alors, malgré toutes les évolutions, on n'a pas encore aujourd'hui un vrai partage d'implications affectives et éducatives du père et de la mère. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même en 20 ans une grande implication du père par rapport à ce que c'était avant. Mais malgré tout, il y a des résistances. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de ça et de l'impact de ce déséquilibre aussi pour les enfants.
Merci. C'est très stimulant quand même de tout ce que Daniel Rapoport a évoqué. Elle a fait un parcours absolument magnifique de la dette que nous avons tous à ce que nous pensons aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que je constate quand même que de plus en plus, il est de mode de ne devoir rien à personne au titre de la pensée et de considérer que tout ce qui est d'avant est mauvais parce que seul le nouveau est utile et on réinvente. Alors, on est dans le fantasme que nous connaissons bien en psychanalyste d'auto-engendrement, qui tient clairement de la psychose. Quand c'est individuel, c'est grave, mais quand c'est collectif, ça l'est beaucoup plus encore. Donc merci Daniel, merci. C'est aussi très intéressant de faire le lien, comme tu l'as fait, entre ce drame qui a obligé les pouvoirs publics à se pencher sur les conditions dans lesquelles les enfants sont mal accueillis dans nos structures, après avoir été quand même plutôt mieux accueillis pendant des décennies. Et tu fais le lien avec, entre l'humanisation de l'accueil, du soin, donc des institutions publiques, et le Conseil de l'enfance et de l'adolescence, son objectif, c'est de mettre en lien toutes les politiques qui touchent à la vie des enfants, la santé, l'éducation, le social, l'urbanisme, la justice, et au fond, de faire en sorte que les services, les dispositifs, les institutions soient bien traitantes à l'égard des enfants, et prennent en compte les nécessités liées à leur développement et dans le respect de leurs droits. Et bien sûr, Éric Delomar, défenseur des enfants, est là. Et voilà. Je dis ça parce que nous avons un souci qui est que le HCFEA, le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge, dont je préside l'entité Enfance, et le Haut Conseil consultatif des personnes handicapées, nous avons eu une commission permanente qui est instaurée par la loi. Ensemble, nous devions travailler sur la bientraitance. Et il n'a pas été possible de réintroduire ce trait d'union. Et donc, le mot s'est écrit en un seul mot. Or, il y a eu des travaux intéressants qui ont été faits, qui sont sortis de cette commission, jusqu'à un certain moment. Et ensuite, ça s'est complètement volatilisé. Il y a quelque chose de ce trait d'union qui marque qu'il faut être plusieurs, au moins deux, si ce n'est plus, pour penser l'humain de toute façon. Et c'est ce qui a été déjà dit ce matin. Et puis, ravie de voir que c'est au moment où il est interdit d'interdire qu'on humanise. Merci encore, Daniel. Alors, pourquoi écrire un livre sur les pères, après avoir tenté de déculpabiliser les mères, après avoir travaillé sur les enfants, etc., etc. Eh bien, parce que je pense que notre évolution sociétale est en panne. Autour de la question, pas seulement des pères, mais des hommes et des femmes. Tous nos textes de loi, tous nos droits sont égalitaires, et depuis longtemps. Il n'y a donc aucune raison pour que les hommes et les femmes s'occupent, éduquent, élèvent, soignent, entoure les enfants. Dans la réalité, le monde de l'enfant n'est pas mixte. Il a été soulevé ce matin la question des foyers monoparentaux. Je préfère l'expression foyer monoparental que famille monoparentale, pas du tout pareil. Hein. Et on bute quand même sur le fait qu'on avance énormément sur les enjeux d'égalité entre les hommes et les femmes. On a des hommes, des pères, qui ont considérablement transformé leur rapport à leurs enfants, et ce serait vraiment une insulte que de ne pas le reconnaître. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le rapport aux enfants, le rapport des hommes aux enfants s'est transformé, je vais en dire deux mots, jusque dans des attitudes corporelles, des réflexes, des postures, les distinctions entre posture, timbre de voix, réflexe, enveloppement, etc. sont en train de s'amoindrir considérablement. Et pour autant, il n'est pas sûr que ça trouble la représentation des enfants, des hommes et des femmes les entourent. Mais on est dans un passage très compliqué parce que ça bute. Et on a une désynchronisation des transformations des femmes et des transformations des pères. Et aujourd'hui, le couple est le lieu d'un face-à-face sociétal des rancœurs. Sur la scène conjugale, viennent se jouer les désynchronisations, des évolutions sociétales. Je pense que la conjugalité est en danger. Alors pourquoi s'inquiéter de la fragilisation de la conjugalité? Eh bien, non pas parce qu'il ne faut pas que les parents divorcent, se séparent, etc. Enfin, on n'en est plus là du tout. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu dommage quand on rencontre des situations où finalement un homme et une femme qui ont des enfants sont amenés à craquer. Ils se séparent parce que c'est intenable, c'est impossible. Alors, je n'ai pas le temps de développer là sur la charge des attentes sociétales à l'égard des enfants. On a vu récemment comment, quand des enfants craquent, comme ça a été absolument rappelé ce matin, on a tout d'un coup le rappel à l'autorité parentale, paternelle, etc., etc. Donc vous voyez bien que les choses sont complètement disjointes et cette conjugalité, elle est en danger sous les assauts de l'idéal de parentalité. Et pour avoir été de ceux qui ont soutenu tous les programmes de soutien et d'accompagnement à la parentalité, depuis le début, nous savons, nous psychanalystes, que ça a été utilisé comme un cache-sexe. Et finalement, il y a un déni des enjeux du désir et de la libido entre les couples qui vivent ensemble, homo, hétéro, c'est pas le sujet, parce qu'il faut faire tout bien pour les enfants. Tellement tout bien, pas seulement bien les éduquer, bien les élever, qu'ils soient en bonne santé, etc., mais ils sont devenus la garantie d'efficience, d'excellence, non seulement de leur famille, mais de tous ceux qui les entourent. Et il est quand même... On est obligé aujourd'hui de faire un constat qui n'est pas celui qu'on aurait voulu, après toutes ces années de progrès dans la connaissance des enfants, la compréhension des mécanismes. Et on a un taux de mortalité des enfants en France qui alerte. La France est en 30e position sur la mortalité infantile en Europe. C'est pas rien. On a un niveau de... souffrance mentale des enfants, le défenseur des droits a fait un rapport là-dessus, le HCFEA en a publié un autre avec des approches différentes. Ça va pas bien, ça va pas bien. Hein. On a une école qui nous dit qu'elle n'y arrive pas, on a des familles qui nous disent qu'ils n'y arrivent pas. Les familles font ce qu'elles peuvent et l'école fait ce qu'elle doit. Et finalement, il y a une déperdition de budget, d'énergie, d'amour, d'affection, d'investissement qui dérape. Voilà. Alors, chacun ici, je pense, prend le problème par l'endroit où il se trouve. Hein ? Je ne sais plus qui a dit « pense avec le monde ». Agis dans ton lieu. Il n'y a pas le choix, on est obligé de faire ça. C'est la bonne façon de faire. Mais quand même, si on se penche sur le couple, effectivement, il y a des décalages et des malaises qui en découlent et qui sont ressentis par les pères et les mères et très peu pensés collectivement. L'égalité entre les femmes dans le travail et la société, elle avance. Il y a du chemin à parcourir. La parité homme-femme dans l'entreprise et la société avance. Et en même temps, le décalage entre les charges d'éducation, de soins, de proximité avec les enfants, elle n'avance pas suffisamment. Et ce n'est pas faute pour les pères de désirer. Et quand je parle d'un face-à-face des rancœurs, il y a un mécanisme qui a déclenché l'écriture de ce livre que j'ai constaté, qui est que de plus en plus, les jeunes hommes sont à l'origine du désir d'enfant. C'est une transformation importante. Et de cette envie de paternité, les femmes ont cru que ce serait une promesse de partage des responsabilités et du soin parental. Or, évidemment, ça n'est pas le cas. Je vais passer sur tous les constats chiffrés, etc. On a donc un couple qui se retrouve dans des affects de déception, le rêve d'un nouveau monde qui s'effiloche pour celles et ceux qui ont cru que le nouveau père allait donner naissance à un nouveau monde, justement, des enfants. De tristesse, les sentiments d'injustice minent le couple, avec les risques de fragilisation. Les femmes attendent plus, puisque les hommes font plus et promettent plus, mais ils n'attendent pas les mêmes choses l'un de l'autre. Et ces disjonctions fragilisent chacun séparément. Et il y a des conséquences en chaîne qui sont coûteuses et pourtant demeure un espoir. Toujours cet espoir qui lie les hommes et les femmes dans un rapport amoureux et des femmes entre elles, des hommes entre eux. À chaque fois, vous pouvez entendre derrière mes mots cette ouverture. Mais les hommes aujourd'hui seraient-ils vraiment prêts à s'investir dans la gratuité et l'imagerie de l'enfant symbole et don de soi? Alors, la paternité, ce qu'on constate, c'est qu'elle est sélective dans les présences et les préoccupations. Il y a des travaux là-dessus. Finalement, le père, c'est plutôt au moment où il y a des performances scolaires. Et la mère, c'est plutôt au moment où il faut qu'il y en ait. Il y a des cécités partielles. La passion professionnelle des hommes demeure, malgré les coups de boutoir qu'ils subissent dans le monde du travail, où l'injustice prend sa place. Quel que soit leur investissement professionnel, leur courage, le mérite, ce qui, pour les générations antérieures, garantissait pour le moins un équilibre au moins économique et l'honneur et la dignité des hommes. Aujourd'hui, ils sont tous sur un siège éjectable et les coups de boutoir des managements bienveillants les mettent au bord du burn-out autant que les femmes dans le burn-out maternel. On a donc, je dessine à grands traits, je n'ai pas le temps de développer, des hommes qui pourraient s'appuyer sur les bilans de leur père. Or, dans une étude que j'ai faite avec Brigitte Guérézy, où on a interrogé les patrons du CAC 40, pendant 2 heures, elle et moi, dans des entretiens, sur les femmes de leur vie, et les femmes dans leur vie, donc dans le travail. Et on leur a demandé quels étaient leurs modèles. Et d'ailleurs, une étude de l'UNAF, ensuite, quelques années après, a fait le même constat. Finalement, pour être père, ils décrivent qu'ils s'identifient à leur mère. Intéressant, mais on voit bien que c'est bancal. C'est un des exemples. Et puis, on a des jeunes pères très impliqués, etc., qui, à certains moments, se placent en rivalité avec leurs enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, La plupart du temps, ce sont les femmes qui sont garantes du réel dans la famille. Elles surveillent la montre. Elles rentrent le soir et râlent. Parce que les pères ont joué, que le travail n'est pas lancé, que la nourriture n'est pas, etc., etc. La montre, le calendrier, elles programment, elles anticipent les vacances, les transports, etc., etc. Et face à ces femmes performantes, organisatrices, têtes pensantes, les hommes peuvent être plus démunis qu'ils ne veuillent bien le dire. Car dans le discours, ils aiment ces femmes actives, puissantes, elles les séduisent. Mais dans le quotidien, ils ne savent pas comment faire. Et les femmes, elles, sont déçues. C'est ce face-à-face des rancœurs qui est irrigué, nourri par des carences sociétales, organisationnelles, au niveau des services publics, au niveau du monde du travail, etc., etc. Alors, les pistes pour comprendre, je n'ai pas le temps de développer, mais quand même, quand on y regarde de plus près, les mères et les pères sont égaux dans les injustices de la manière dont on s'adresse à eux et des attentes sociétales à leur égard. La sacralisation de la maternité et les femmes sacrifiées, je n'ai pas le temps de développer. Les hommes qui se sont vus sollicités au fil des besoins des sociétés, tantôt tout le monde s'y est mis sur les pères, hein. Sur les mères c'est beaucoup plus développé, mais tout le monde s'y est mis. La théorie du père idéal, hein. Le tiers garant. L'autorité, le père idéal, c'est un père qui n'est pas tout le temps là, comme on le sait. Alors ça, ils s'en sont servis beaucoup. Il n'est pas tout le temps là, et donc quand il arrive, il fait tiers, et quand il fait tiers, il éduque bien mieux et plus fortement que les mères. Ça ne marche pas, ça ne marche plus du tout, ça ne marche pas du tout. Et puis, ça c'est le père fonction symbolique de la psychanalyse. Je rappelle que la psychanalyse, comme toutes les sciences, est une science qui évolue avec le temps. Et comme c'est bizarre, on continue à appréhender les apports et les découvertes de la psychanalyse à partir des apports d'il y a un siècle. Si on faisait pareil avec la médecine, la biologie, vous imaginez quand même, c'est quand même très curieux. Moi, j'entends des gens me parler de la psychanalyse, je les regarde et je me dis, mais de quoi ils me parlent ? Hein ? Ça, il faut quand même le rappeler. Mais on leur a laissé croire qu'ils... à un moment donné, qu'ils étaient acculés à jouer un rôle dont on leur reproche de ne pas avoir la puissance. Hein ? 1970, au moment où les pères se sont le plus rapprochés de la sphère familiale, c'était les nouveaux pères de ma jeunesse, hein, on y a cru. Hein. 75, les nouveaux pères, on voyait dans les magazines, les bébés dans les kangourous, tout ça. Bon, après, on a des enfants, on se marie, on s'aperçoit que bon... Et c'est les années 70. Et puis, on les a invités à exprimer leur propre vulnérabilité. Et puis, ils ont dû faire face ensuite, dans les années 80, hein, au moment où les femmes consolidaient leur investissement professionnel à l'extérieur du foyer, leur autonomie, etc., etc. On les a rappelés, hein. Les instabilités de l'emploi, les crises de l'emploi, les années 90. Et là, comme par hasard, au moment où ils étaient fragilisés sur ce qui a fait leur point d'appui identitaire, la montée du chômage, eh bien, on a commencé à considérer qu'il y avait des sauvageons dans les banlieues, qu'il fallait rappeler aux pères leur autorité, et qu'ils redeviennent les pères des années 50, vous voyez le bazar dans leur tête. Et franchement, dans les années 2000, avec l'instauration de l'illusion sécuritaire comme valeur première, eh bien, ils étaient très fragilisés et on les a convoqués. Il y a de quoi s'énerver et se perdre. Je dessine à grands traits. Juste, je voudrais rappeler aussi que du côté des femmes, ça a bougé, tout a bougé, bien sûr. Mais il y a quand même un point qui est resté un peu enquisté, c'est le fait que la mère étant celle qui enfante, etc., etc., il y a encore comme une idée que le père arrive en deuxième position, ou il arrive de l'extérieur, il n'est pas dans la matrice. Il s'avère qu'on constate depuis un siècle dans notre pays que des enfants ont survécu à des choses incroyables parce que d'autres que la mère ou le père se sont occupés d'eux. C'est toute l'histoire que tu as réévoquée. Et certes, on peut penser qu'il faut une personne qui se met dans un état psychique suffisamment particulier pour pouvoir être dans une concordance, une fragilisation sensible, à tonalité un peu dépressive, pour pouvoir ouvrir des récepteurs psychosensoriels et sentir le bébé, interpréter, réagir. Vous avez parlé de réverbération, monsieur Houzel, tout à l'heure. J'ai trouvé que ce terme de réverbération était vraiment intéressant. Et ça, moi, je l'appelle le grand proche du nourrisson. Le grand proche du nourrisson. Or, la plupart du temps, c'est la mère qui se place à cet endroit. Mais quand elle ne le peut pas pour mille raisons, alors quelqu'un d'autre peut se mettre dans cet état-là interne. Et il faut savoir que lorsque nous voulons former des professionnels pour s'occuper des enfants petits, pour s'occuper des enfants en situation de handicap, pour s'occuper des enfants placés, je vois Anne de Vrez ici présente, qui est présidente du Conseil national de la protection de l'enfance. Pour former ces professionnels, on ne peut pas se contenter de leur donner des guidelines de bonnes pratiques. Il faut travailler avec eux ces questions de réception sensorielle, sensitive et sensible pour faire du bon travail. Et donc, on a des hommes qui se mettent à cet endroit-là bien plus qu'on ne le pense. Et d'ailleurs, les démonstrations expérimentales en live, avec les bébés prématurés, le pot à pot, etc., ont montré, et les sécrétions d'ocytocine. Aujourd'hui, on a des preuves, effectivement, qu'on n'avait pas autrefois, mais enfin, quelquefois, il suffit de regarder. Hein. Autrement dit, la fonction maternelle a son éthique, qui est de se décaler, puisqu'elle est en première place, la mère. Son éthique, c'est de se décaler du champ de vision et de relation de l'enfant pour laisser une place aux autres dans l'entrée en lien avec l'enfant. Et la fonction paternelle a son éthique, qui est de s'emparer plus de cette place de grand proche.
Une minute.
Une minute, très bien. Il y a des fausses bonnes pistes. Parmi les fausses bonnes pistes, je vais juste les noter. La tentation pour avancer vers une meilleure égalité entre les hommes et les femmes et entre les pères et les mères, c'est d'omettre la question du corps. Aujourd'hui, on est dans un rapport au corps qui est complètement problématique. D'un côté, on travaille son corps, on masse, on fait du yoga, on fait, voilà, hein, il faut être bien dans son corps, on fait du sport. Hein. Et de l'autre, il n'y a plus de corps psychique. La tentation d'omettre le corps pour supprimer des différences qui, en fait, sont utiles, mais c'est écrit, mais je n'ai pas le temps de développer. Je dis ça parce que le malaise entre les hommes et les femmes n'est pas un malaise sexué.
C'est juste avant de terminer, oui. Puisque après nous allons voir une table ronde très intéressante avec des familles qui viennent d'arriver, que je salue, bonjour, et merci d'être là. Je voulais vous demander à toutes les deux, dans tout ça, où est l'espoir ?
Alors, je termine. Il n'est pas dans le coaching parental.
Ok.
D'accord. L'espoir, il est dans le fait qu'on ne respecte pas assez les sentiments. Et qu'on ne respecte pas le fait que les sentiments, ça fiche le bazar. Et que ça crée de l'embarras. Et les institutions ne veulent pas être embarrassées, elles veulent que ça fonctionne, que ça tourne, etc. Et les sentiments, eux, font que ça vive. C'est oui. La différence. Voilà, je m'arrête là.
Donc, l'espoir pour Sylviane du côté des sentiments et pour Daniel.
L'espoir, il m'a semblé aussi bien avec toi que ce que j'ai dit, qu'il était partout et tout le temps. Alors, puisque Boris s'en va, je vais lui demander de... Je vais lui demander juste d'attendre ce que je dis de l'espoir, parce que je vais peut-être le dire pour toi. L'espoir, lui, comme un brin de paille dans l'étable. Que crains-tu de la guêpe, ivre de son vol fou ? Vois, le soleil toujours poudroie quelques trous. Que ne t'endormais-tu, le coude sur la table, pauvre âme pâle? Au moins cette eau du puits glacé, bois-la, puis dors après. Allons, tu vois, je reste, et je caresserai les rêves de ta sieste, et tu chantonneras, comme un enfant bercé, Verlaine.